Le petit m'a dit, papy, tu chilles pas assez. Ça veut dire quoi, chiller ?
Ben, tu vois, je t'explique. Tu t'assois, j'allume le poste et on écoute l'agité du local.
Ah bon ? Eh ben, ok, c'est ça, chiller.
Je ne fais plus la bise, je serre la main aux copains, aux collègues, aux voisins, et ils s'en vont là où on est tous attendus. Je ne sais pas bien où ça se trouve d'ailleurs, les allées et venues, les choses qui font qu'on s'habitue. On y va franchement ou clopin clopin, chacun sa manière, chacun sa cadence. Je prends des tas de chemins que je connais par cœur et je ne lève plus beaucoup la tête. Je serre des mains mais je ne tends pas tellement la mienne, alors que mon invité d'aujourd'hui en a fait son quotidien, au contraire. Je vous parle là de Christian Mignon, président des Restos du Cœur de la Mayenne. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue amis auditeuristes dans l'agité du local. Aujourd'hui, on va parler de cette association que vous connaissez tous, qui lançait un appel à l'aide en septembre dernier face aux difficultés qu'elle rencontrait et aux mesures qu'elle risquait de devoir prendre. Aujourd'hui, en ce début d'année 2024, on fait le point. On partira également à la rencontre des bénévoles des Restos du Cœur parce qu'on a été à leur rencontre le 29 décembre 2023, directement sur le terrain. Évidemment, je n'oublie pas notre chroniqueuse du jour, Soizic, qui nous rejoint dans quelques instants pour sa chronique « Un autre écho de l'écho ». Bonjour Christian Mignon, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Donc vous êtes le président des Restos du Cœur de la Mayenne depuis le 27 septembre.
C'est cela, oui.
Et donc pour revenir un petit peu sur les chiffres des Restos du Cœur, en 2023, 28 millions de repas supplémentaires de distribués par rapport à 2022. Avec la hausse des demandes, l'inflation et le changement de politique des grandes enseignes alimentaires concernant les produits à date courte, le président donc, national des Restos du Cœur lançait une alerte concernant les difficultés de l'association et annonçait devoir changer les barèmes d'inscription et donc potentiellement refuser l'accès à des familles qui avaient droit jusqu'ici. Aujourd'hui, on en est où de cette situation ?
Bien, vous avez résumé effectivement ce qui s'est passé. Donc, en début de saison, octobre-novembre, lors des inscriptions, on est reparti sur les mêmes barèmes que l'été précédent. Donc, on a donc enlevé des gens qu'on avait pris à l'hiver 2023. Et donc, pour l'hiver 2023-2024, eh bien, on avait à peu près le même nombre de gens l'été que l'hiver. Donc effectivement, il y a eu ça a apporté quelques gens qui étaient déçus de ne plus avoir l'aide alimentaire, car ils étaient hors barème. Mais malheureusement, il fallait faire un choix. C'était soit on prenait tout le monde et on mettait en péril l'association des Restos du Cœur, ou alors il fallait faire un choix et on continuait les Restos du Cœur. C'est le choix qui a été pris, donc effectivement, de limiter le nombre de bénéficiaires. Tout du moins, avoir moins de bénéficiaires. Et on a aussi joué sur un autre levier qui était de diminuer l'aide alimentaire. Donc les gens qui partaient en 2022-2023 avec 6 repas par semaine, maintenant ils sont arrivés à 4-5 repas par semaine, ce qui change la donne. Mais bon, malheureusement, on n'avait pas le choix. Donc au début, on a eu des grincements de dents aussi bien de la part de nos bénévoles, car ils ne pouvaient plus donner ce qu'il fallait à nos bénéficiaires, et aussi de la part des bénéficiaires qui, bien des fois, repartaient en pleurant parce que soit qu'ils n'avaient plus d'aide alimentaire ou qu'ils n'avaient plus assez pour manger. Mais c'est rentré dans l'ordre et maintenant, bien, les gens s'y sont faits et ça se passe plutôt bien.
Donc quelque chose, une décision qui a dû être difficile à prendre pour les Restos du Cœur, évidemment, parce que ça, c'était pas forcément dans l'objectif, mais il n'y avait pas le choix. Quelles sont, vous, vos plus grandes préoccupations, justement, concernant l'impact humain de ces changements sur les individus et les familles qui comptent, en fait, sur l'aide des Restos du Cœur ?
Ben, l'impact humain, c'est effectivement que les gens ont moins à manger, ont moins de support, ont moins de bénéfices derrière. Donc il faut faire très attention à ne pas les laisser de côté. Donc en regard de l'aide alimentaire que l'on apportait, maintenant on joue sur un autre levier qui est tous les aides qu'on peut apporter à côté, à savoir ça peut être l'aide à la personne, ça peut être du microcrédit pour dire aux gens attention à votre budget, maintenant on peut vous aider à gérer votre budget un peu mieux, voir comment on peut s'organiser. Donc faut apporter ce que l'on peut aux personnes à défaut d'aide alimentaire, quoi.
Oui, voilà, effectivement, on connaît principalement le soutien alimentaire que les Restos du Cœur apportent, mais il y a d'autres services en plus. Pour vous, justement, bon, quand on est en situation de précarité, quand on est aussi du coup en isolement social, souvent c'est ce qui s'accompagne de cette situation difficile, quels sont les principaux leviers sur lesquels on peut agir pour aider ces familles ou ces foyers en situation
On peut agir sur plusieurs niveaux. On peut agir sur l'aide à la petite enfance, aider les mamans qui ont... Parce que malheureusement, c'est souvent des mamans avec des enfants, souvent des mamans seules avec des enfants qui viennent au Restaurant du Cœur. Donc, il faut effectivement que leur enfant puisse s'épanouir ou puisse manger effectivement à son choix, quoi. Donc, il faut aider les mamans, il faut aider les enfants. On peut aussi aider les gens dans leur recherche informatique parce qu'ils n'ont, bien sûr, ils n'ont pas d'informatique chez eux, ils n'ont pas de PC, ils n'ont pas d'écran. Donc nous, on peut les aider en ce qu'on appelle l'inclusion informatique, les aider dans faire des recherches pour de l'emploi, faire des recherches pour leurs papiers, de tout ce qu'ils ont droit. Ça c'est notre rôle. On peut aussi les aider parce que malheureusement on a beaucoup d'étrangers qui viennent à droite à gauche. Donc là on leur apporte du français pour qu'ils s'en sortent mieux dans la vie et qu'ils puissent se développer au sein de la ville de Laval. On a énormément de choix à leur donner, quoi. On peut leur faire aussi des cours de permis, des cours de code ou s'arranger avec une autre école pour leur donner quelque chose.
Oui, donc les
donc maintenant, il faut aller au-devant des bénéficiaires, leur demander quels sont leurs besoins, ou tout du moins les inciter à partir sur telle ou telle direction. Quoi.
Essayer d'agir donc, sur plusieurs points du quotidien pour essayer d'aller vers une réinsertion et puis un rééquilibre de la situation. J'avais envie de revenir avec vous sur justement Coluche. Quand Coluche lance les Restos du Cœur en 1985, il annonce que ce serait pour une durée d'un an face à l'inaction du gouvernement. Mais dans l'idée qu'ensuite les pouvoirs publics s'emparent du problème justement de la précarité en France. Aujourd'hui, selon le baromètre Ipsos Secours Populaire, un Français sur trois ne peut pas se procurer une alimentation saine en quantité suffisante pour faire trois repas par jour. Quel est votre sentiment justement par rapport à cette situation aujourd'hui où finalement cette problématique pèse encore sur des associations et qu'en fait la situation ne s'améliore pas, voire empire ?
C'est ça, en fin de compte. Coluche, au départ, il ne prévoyait pas durer si longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas maintenant ce qu'il en penserait, mais pour lui, c'était un an, deux ans. Et derrière, les pouvoirs publics allaient reprendre la main, allaient pouvoir aider ces gens, mettre des logements à disposition, mettre autant de choses à disposition. Et j'ai l'impression qu'on a été victime de notre succès. Que les Restaurants du Cœur, on a eu cette annonce de Coluche qui a fait boule de neige et effectivement tout le monde a voulu nous aider énormément et même au sein de la population on a été énormément aidé, ce qui a apporté beaucoup de finances à droite à gauche de la part de l'État, des fonds européens ainsi de suite et l'État s'est engouffré là-dedans, dire « Ok, quelle bonne aubaine, les restaurants marchent très bien, on va les laisser continuer comme ça. » Et nous, de notre côté, eh bien, ils sont un peu déchargés sur les Restaurants du Cœur. Quoi. Mmh. Et effectivement, bon, je parle des Restaurants du Cœur, mais on a à côté le Secours Populaire, on a à côté la Banque Alimentaire, on a un tas d'organismes qui fait qu'effectivement, on se repose, l'État se repose vraiment sur ces associations-là pour effectivement se libérer un peu de la pauvreté. Quoi.
Et ce que l'on peut constater aussi aujourd'hui, c'est qu'au moment de la création des Restos du Cœur, les Restos du Cœur étaient en quelque sorte une aide d'urgence. Aujourd'hui, ça fait partie aussi du quotidien de certaines personnes qui ne sortent pas de leur situation.
C'est ça. C'était l'urgence, et comme on dit, c'était l'urgence qui dure longtemps. Quoi. C'était une urgence qui dure maintenant depuis 39 ans. Et maintenant, c'est plus devenu une urgence, c'est presque devenu du quotidien. Quoi. C'est dur. C'est dur, et effectivement, je crois qu'il faut, bien qu'on prenne conscience que actuellement, s'il n'y avait pas toutes ces associations comment ces gens-là pourraient survivre.
Et alors, ce qu'il est important de préciser, donc on parlait tout à l'heure du chiffre qui explose, du chiffre de bénéficiaires, mais il y a aussi le changement un petit peu des profils. C'est-à-dire qu'au profil de bénéficiaires que vous accueillez déjà auparavant, il y a également aujourd'hui des étudiants, des jeunes et des travailleurs pauvres, en fait. C'est-à-dire que la société, aujourd'hui, fait que même en travaillant, on peut vivre des difficultés importantes.
Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, effectivement, bon, c'est pas la majorité quand même. Hein, c'est pas la majorité, mais on a quand même effectivement des gens qui travaillent, qui veulent s'en sortir, mais malgré tout, bah, avec toutes les charges qu'ils ont à payer et le peu de salaire qu'ils tirent dans leur travail, ils peuvent pas s'en sortir tout seuls. Donc, il faut effectivement, ils viennent frapper à la porte des Restos du Cœur pour qu'on leur aide.
Et c'est
ce qu'on fait.
Et alors vous qui êtes impliqué dans les Restos du Cœur depuis quand même maintenant un certain temps, qu'est-ce que vous pouvez constater peut-être de l'impact psychologique que ça peut avoir, ces situations de précarité? Il ne faut pas minimiser du tout, justement je parlais tout à l'heure d'isolement social, mais également peut-être un sentiment de honte avec Philippe Durand, on l'avait mentionné. C'est compliqué de même passer le pas des Restos du Cœur.
Ah oui, il y a encore des gens que l'on sait qui sont dans la précarité et qui sont peut-être un peu fiers, mais bon, il faut les comprendre, ils ne veulent pas non plus passer le pas. Il faut presque je dirais entre parenthèses les violer, mais c'est presque ça pour qu'ils viennent effectivement, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir malheureusement. Quand on a faim, on a faim, quand on ne peut plus, ben, on a beau se démener, tout seul on n'y arrive pas, quoi. Donc c'est en s'aidant qu'on peut s'en sortir. Effectivement, notre rôle, c'est pas de garder les gens au restaurant du cœur, parce que le rôle de Coluche, c'était bien ça au départ, c'était du ponctuel. Et le but, c'était qu'effectivement, tous ces gens-là derrière puissent trouver un travail où on puisse les aider pour s'en sortir. Le rôle, c'est que les associations soient un tremplin pour les aider momentanément quand ils ont une passe difficile, et ensuite repartir dans la vie active.
Voilà, il est important effectivement de voir tout ce qu'implique des situations comme ça et de voir la difficulté en fait autant financière, économique que psychologique aussi à pouvoir sortir et relever la tête de ce type de situation. J'ai envie de revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes donc le président, je le disais tout à l'heure, depuis septembre, mais en fait vous vous impliquez depuis la création des Restos du Cœur.
Bien oui, c'est une longue histoire. J'avais effectivement répondu présent à la première campagne en 85 de Coluche. Ensuite, je me suis un peu dégagé puisque mon travail ne me permettait plus de faire ça ou mes occupations professionnelles et familiales. Mais je suis toujours resté près du social, pouvoir aider les gens, c'est très important. Je crois que c'est le rôle de chacun, quand on a une vie assez aisée ou assez facile, d'aider ceux qui sont dans le besoin.
Et alors aujourd'hui, quels sont les besoins? On a évidemment toujours les dons, vous êtes toujours à la recherche de dons. Il y a quelques mois, vous recherchez des bénévoles également. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas?
Ah, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, on est toujours en recherche de dons. Bien sûr, les gens qui sont prêts à nous offrir du matériel, des dons, bien sûr, on peut... Notre porte est grande ouverte et également
en tant que bénévole,
on a toujours besoin d'un grand nombre de bénévoles. Et comme je vous disais, maintenant, comme on veut développer énormément le côté
service,
le côté service et le côté aide à la personne, on a besoin de gens qui ont des compétences un peu au niveau de la petite enfance, au niveau du microcrédit, au niveau de l'informatique. Tout bénévole est bon à prendre. Donc n'hésitez pas à appeler les Restaurants du Cœur ou envoyer un mail au Restaurant du Cœur. Vous aurez toujours une réponse en retour.
Et donc toutes les coordonnées sont disponibles sur votre site internet. Il est bon de rappeler également que si des gens souhaitent faire des dons, notamment par chèque, il faut bien le faire à l'Ordre des Restos du Cœur de la Mayenne pour que ça puisse bénéficier aux bénéficiaires de notre département. Merci. Oh.
Tout à fait.
Merci, merci d'avoir été avec nous, Christian. C'est un plaisir. Vous avez froid, voyou aussi. D'ailleurs, l'hiver est plus grand quand on parle en chanson.
était-ce l'hiver qui coulait de ses yeux? Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu qui courait hier encore dans ce corps soudain là figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant entre les marronniers à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt. Quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé en bloc de pierre. Et ce quelque chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et c'était pas des journées joyeuses, et c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà l'air égaré. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne. Pas même les jours heureux. C'est vrai que la mer est froide et silencieuse, que rien ne rayonne plus sous ton ciel pluvieux. Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent. On passait des heures ensemble à s'amuser de peu, à crier à ta fenêtre de prendre part à nos jeux. Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire que chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut. Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux. Toi t'étais pas encore amoureuse, mais déjà passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. Chose dans l'air qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire à fixer le néant comme un aimant. Et ça viendra les journées joyeuses, on fera tout pour t'y amener. Toi tu tomberas enfin amoureuse, t'en as déjà l'air égaré. Et tu verras plus passer les heures à t'évader vent dans le dos, cheveux lâchés, que rien ne t'atteigne, pas même les jours plus vieux.
Et c'est le moment où on jette un œil sur l'actualité locale. On commence dans le centre-ville de Laval. La ville remboursera jusqu'à 200 euros d'achat pendant les soldes à 40 gagnants tirés au sort. C'est une opération organisée avec l'association Laval Cœur de Commerce qui vise à soutenir les commerçants pendant cette période de soldes hivernales. 300 commerces sont concernés, allant des cordonniers aux buralistes en passant par les bars et les vendeurs de textiles. Une opération qui vise à redynamiser le centre-ville. 65 foyers privés de gaz à Château-Gontier après une suspicion de fuite hier. La coupure a été établie par mesure de précaution par GRDF suite à un appel vers 10h50 pour une odeur de gaz entre la rue René-Perrot et la place de la mairie. Le rétablissement de la distribution en gaz naturel a été rétabli prioritairement pour les établissements recevant du public et les personnes signalées par la mairie. La neige dans le nord Mayenne complique la circulation dans la matinée d'hier sur la RN 12, 130 camions bloqués entre Lorne et Préampaille suite à plusieurs accidents qui se sont succédés, aucun blessé n'est à déplorer. Et enfin, la seule à avoir postulé cette année, c'est celle qui intègre le réseau des petites cités de caractère. Je vous parle de la commune de Cran. Elle intègre le réseau mais n'est pas encore homologuée. Quelques efforts sont encore à faire, prévient Bertrand de Guébriant, le maire, notamment au niveau des réseaux signalétiques et de l'aménagement piétonnier. La nouvelle permettra à la commune de bénéficier de l'accompagnement d'un architecte conseil, mais aussi de nouvelles subventions. Émilie sort ta doudoune du placard, elle est moche mais elle tient chaud. Aujourd'hui, Émilie résiste encore à la météo et pourtant, il faut l'admettre, les températures restent dans le négatif. Jusqu'à moins 5 degrés dans le nord Mayenne ce matin et cet après-midi, une remontée entre moins 1 et 0 degrés avec le soleil qui fait quand même son apparition. Demain, on gardera notre bonnet, nos gants et nos chaussettes chaudes puisque des températures entre 0 et 1 degré sont attendues en matinée dans le sud Mayenne contre moins 3 à Ambrières-les-Vallées. L'après-midi, des rayons de soleil dans les yeux d'Émilie et sur l'ensemble du département. Comptez 6 degrés du côté de Château-Gontier et 3 degrés à Mayenne. De quoi s'habiller chaudement ou se blottir dans les bras de quelqu'un, c'est vous qui décidez. Quand je me suis présentée à l'élection présidentielle, j'ai fait peur au monde politique. Quand j'ai créé les Restos du Cœur, je leur ai fait honte, disait Coluche. Tout à l'heure, Christian Mignon, des Restos du Cœur de la Mayenne, vous répondiez à nos questions et alors on se disait que l'on pouvait peut-être rappeler à nos auditeurs les coordonnées des Restos du Cœur de la Mayenne.
Tout à fait. Donc, l'email pour les bénévolats, ce sera ad53.bénévolat@resto.org. Et notre numéro de téléphone, c'est le 02 43 01 46 41. Donc n'hésitez pas à faire soit l'email, soit le numéro de téléphone. Il y aura toujours quelqu'un à vous répondre. Voilà, merci beaucoup.
Merci Christian. Nous allons maintenant à Château-Gontier à la rencontre des bénévoles sur le terrain, toujours dans l'association Les Restos du Cœur. C'était pendant la distribution, le 29 décembre, que je suis allée à leur rencontre. Vous connaissez l'histoire d'un mec, voilà l'histoire de milliers de gens.
Je m'appelle Monique, donc je fais partie des Restos du Cœur depuis la fin du Covid, parce qu'avant c'était compliqué, voilà. Et en fait je fais partie de l'équipe, je ne veux pas dire dirigeante, mais organisatrice on va dire, voilà c'est ça. Donc à Château-Gontier on a une distribution tous les vendredis, une distribution le matin, une distribution l'après-midi. Mais avant ça, il faut réceptionner les marchandises, organiser tout ça pour que le vendredi matin tout soit prêt pour la distribution. Nous sommes une équipe d'environ une trentaine de personnes. On n'est jamais 30 en même temps, mais c'est très bien, ça fonctionne bien.
Et donc là, on est dans une période un peu particulière aujourd'hui où je vous rencontre. On est le 29 décembre. Comment ça se passe au Resto du Cœur en cette période de fin d'année? Il y a notamment une distribution de cadeaux pour les enfants.
Alors, la distribution de cadeaux, on a déjà commencé la semaine dernière parce que nous avons reçu des cadeaux d'établissements scolaires qui prépare des choses, de l'équipe des enfants du conseil municipal, ou le conseil municipal des enfants, voilà, qui nous ont aussi amené des cadeaux, ça c'est très apprécié par les familles. Aujourd'hui c'est une journée particulière parce que les magasins nous ont fourni beaucoup de nourriture et de produits liés au réveillon de Noël. Et ça sera la même chose le vendredi suivant le 1er janvier, c'est un peu exceptionnel. C'est très apprécié parce qu'en fait, ça permet d'avoir sans doute plus que les autres fois. On a surtout des cadeaux, c'est pour les enfants. Hein, pour les enfants, quelques boîtes pour adolescents, mais c'est plutôt... comme je le disais, on a des relations avec les établissements scolaires, donc les enfants font pour un autre enfant, c'est un peu ça l'idée. Voilà. On en a assez, mais on n'en a jamais assez en fait. Si on avait plus, ça serait bien aussi.
Il y a 2 ans et demi, vous avez décidé de vous impliquer au sein des Restos du Cœur. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cet engagement?
Alors déjà, chez nous, Coluche est un personnage intéressant qu'on aime beaucoup. Et à la fin du repas, il y a toujours un beau-frère pour jouer Coluche. Il a sa salopette. Non, mais c'est une communauté d'esprit, d'engagement. Et puis, je ne saurais pas dire plus, mais...
C'est important pour vous d'être dans cette solidarité.
Dans celle-ci, oui. Puis en plus, c'est une association très très bien organisée. Alors moi, j'ai fait une carrière dans la fonction publique, donc la hiérarchie, tout ça, je connais. Donc je suis comme un poisson dans l'eau. Par exemple, je suis formatrice. Donc ça permet d'aider nos bénévoles à progresser aussi, puisqu'on propose tout un programme de formation tout à fait adapté et dynamique.
Et comment ça se passe une distribution au Resto du Cœur ici ?
Pour la distribution, nous organisons une distribution accompagnée. C'est-à-dire que, si vous voyez là, on a un bénévole avec chaque personne, enfin, ou des fois c'est un couple ou une famille, mais on a toujours un bénévole qui accompagne et qui aide à choisir les produits et tout. Parce qu'on tient absolument à ce qu'ils aient une alimentation variée, différente et adaptée. Malheureusement, on a beaucoup de personnes en difficulté qui se nourrissent de façon accessible et pas chère. Et c'est pas bon pour la santé. Et puis nous, on veille aussi à ça, à ce qu'ils aient une alimentation équilibrée. Hein. Alors on a aussi une distribution de viande sans porc aussi, hein, pour tous ceux qui ne veulent pas de porc. Donc là aussi, on suit les souhaits.
En septembre, le président des Restos du Cœur au niveau national alertait sur les difficultés qui allaient amener à devoir donc refuser des personnes accueillies jusqu'ici. C'est ce qui a eu lieu depuis. Aujourd'hui, en tant que bénévole et directement sur le terrain, qu'est-ce que vous ressentez face à ça ?
Alors, nous avons deux séances d'inscription par an, bon, tous les 6 mois. Et là, la dernière inscription qui avait lieu en novembre, on a été malheureusement obligé de refuser des familles qui avaient trop de revenus. Mais quand on dit trop de revenus, c'est sur une base d'un petit revenu déjà. Et ça nous a meurtri parce que c'est tragique, quoi. C'est-à-dire que ces personnes qui dépassent un petit peu n'ont plus accès à notre distribution. Et ça, pour nous, c'est dramatique. On le vit très mal. Donc, c'est vrai qu'on se bat tous pour essayer de trouver des fonds, hein, parce que c'est vraiment un effort de tous les jours de notre part et tout, d'essayer de trouver d'autres fournisseurs, d'autres prestataires. Enfin, on est largement ouvert à ça. Parce qu'on a vraiment des personnes qui sont dans des situations abominables, quoi. Et sans tellement espoir de changement aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on les abandonne. Et ils ont le sentiment d'être abandonnés. Alors, on a quand même une possibilité, une fois par mois, de faire ce qu'on appelle un colis de dépannage. Mais une fois par mois, c'est rien, quoi. Je veux dire, là, nous, on est vraiment tristes là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on se bat. Alors, par exemple, on a fait une séance de paquets cadeaux chez Leclerc cette année, où on faisait les paquets, hein, du mieux qu'on pouvait, pour avoir quelque argent. Et on a eu une belle récolte. On est très contents. Donc, ça, on fait ça tous les ans. Et puis, on va faire une grande collecte de produits alimentaires dans les grandes surfaces prochainement en mars, et là on aimerait bien qu'on nous donne plein de choses aussi bien pour les adultes que pour les enfants, parce que vous voyez les couches, ça coûte un prix fou maintenant les couches, et ça c'est les bébés de pauvres et de riches, ils ont tous besoin de couches, quoi.
C'est un temps fort dans cette émission, c'est le moment de la chronique, un autre écho de l'écho. Soizic nous a rejoint, bonjour Soizic.
Bonjour tout le monde, je déplie juste mes feuilles.
Et alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler des Jeux Olympiques.
Oui, alors des Jeux Olympiques et surtout de la neige et du ski. Alors, parce qu'en effet, ce qui fut ne sera plus à l'avenir forcément. Alors vous n'êtes pas sans avoir remarqué qu'on est sur un nouveau clivage national et un nouveau débat par presse interposée sur les JO d'hiver 2030. Voilà que se déchirent à nouveau les écologistes, les businessmen et les fendus de ski. Entre le manque de neige à venir, les dépenses engagées pour un tel événement et le prestige de la France dans la compétition sportive mondiale, vers quel avis notre cœur doit-il pencher ? Et surtout, au-delà de cette question ponctuelle, on peut se demander plus largement quel est l'avenir des sports d'hiver au vu du dérèglement climatique. Alors, essayons d'y voir plus clair.
Tout d'abord, que rapporte l'économie de l'or blanc à la France ?
Eh bien, d'un point de vue économique, il faut savoir que le tourisme de montagne dans notre pays accueille chaque hiver près de 10 millions de touristes, ce qui place la France au troisième rang mondial du ski, derrière les États-Unis et l'Autriche. Le poids économique total du tourisme de montagne en hiver est quant à lui estimé à 10 milliards d'euros par an, ce qui représente 15% du chiffre d'affaires du tourisme national. Parce que rendez-vous compte que pour 1 euro de forfait, eh bien il y a 6 euros, je dis beaucoup de chiffres, hein, mais l'économie c'est ça, il y a 6 euros supplémentaires qui sont dépensés dans les stations ou dans les vallées tout autour. Ça a donc permis ainsi l'emploi direct de 18 000 salariés, avec bien sûr 80% de saisonniers. Ce qui veut dire que l'or blanc exploité depuis les années 60 a donc permis à des vallées autrefois déshéritées et enclavées de s'enrichir et de se développer. Mais le ski, c'est aussi le prestige de la France. Jean-Claude Killy, bien sûr, 3 fois champion olympique aux JO d'hiver de Grenoble en 68 et grand soutien des Jeux de 2030, qui est certainement un des plus grands sportifs de tous les temps et qui a permis à la France de rayonner dans le monde entier. Alors en revanche, et je ne peux pas m'empêcher une petite analyse sociologique, on remarque que son père est lui-même ancien champion de ski junior. Encore une fois, le mérite tient en partie de la reproduction sociale. Bon, mais passons. Revenons-en à notre neige. Et puis le ski, c'est aussi le sport, la descente, le soleil d'hiver, les terrasses d'altitude et les raclettes festives au coin du feu. Bref, le ski, c'est quand même que du bonheur.
Alors pourquoi les écolos jettent-ils encore un pavé dans la mare au lieu de laisser les gens s'amuser et se changer les idées avec les JO de 2030 ?
Eh bien, vous le savez certainement si vous suivez régulièrement cette chronique, c'est que rien ne durant éternellement, eh bien ce qui fut, assurément, ne sera plus. Parce qu'aujourd'hui, les sports d'hiver, c'est d'abord et avant tout de la neige. Et il y en a de moins en moins. C'est ce que dénonce le collectif Nojo, qui s'est mobilisé contre la candidature des Alpes aux JO. Alors Stéphane Passeron, ancien skieur de fond professionnel lui-même et porte-parole de ce mouvement, a largement exprimé ses inquiétudes et ses revendications au sujet d'un événement qu'il qualifie de catastrophique pour le pays.
Mais a-t-on des preuves scientifiques qui viennent conforter ce coup de gueule ?
Eh bien, une étude de la revue scientifique Nature Climate Change, publiée le 12 janvier 2023, indique qu'au cours des 50 dernières années, la durée d'enneigement a diminué d'un mois en moyenne. Alors bien sûr, la faute au dérèglement climatique, mais également à la pluie, de plus en plus fréquente, ce qui empêche le manteau neigeux de se former. On pense qu'à un tel rythme, le ski rentrera dans les livres d'histoire dès 2050. Alors bien sûr, les technophiles pourraient répondre à cela, que les canons à neige solutionnent le problème. Sauf que, selon Marco Carré, chercheur au CNRS, eh bien en France, la fabrication de neige artificielle mobilise environ 15 millions de mètres cubes d'eau par an. À un moment où, vous le savez, économiser l'eau doit devenir une priorité. Ceci dit, ça pourrait être pire, parce que si on souhaitait un enneigement complet de toutes les stations de France, eh bien, ça exigerait un volume d'eau de l'ordre de 100 millions de mètres cubes, soit 400 piscines olympiques. Alors bien sûr, en plus de cela, eh bien, il faut prendre en compte l'impact sur l'artificialisation des sols que provoque la neige artificielle d'année et l'empreinte carbone qu'entraîne la construction des infrastructures, hôtels, immeubles, parkings, restaurants, etc. Et si on faisait aussi la fine bouche, on pourrait rajouter encore le CO2 émis par les transports pour parvenir jusqu'aux stations. Autrement dit, je vous laisse imaginer l'empreinte carbone totale de l'or blanc pour 90 ans de ski dans l'humanité, destiné à quelques milliers de ménages à fort pouvoir d'achat. Donc une fois de plus, il faut mettre dans la balance le court terme hédoniste et individuel et le long terme sobre et collectif. Et il nous faut regarder de quel côté le plateau de la balance penche. Bon, bah, je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous avez deviné. Alors face à cette réalité, certes peu festive, on ne dit pas l'inverse, hein, on peut quand même se demander si les organisateurs des JO sont sérieusement informés de la crise environnementale dans laquelle nous sommes entrés. Je l'espère, Margot, mais j'en doute un peu.
Merci, Soizic. Toujours un sujet fort et d'actualité. Il y a aussi un rendez-vous prochainement dont vous vouliez nous parler.
Oui, absolument. Alors, je vous donne rendez-vous le 25 janvier. Je ne me souviens plus de l'heure, vous regarderez. C'est à l'avant-scène et là, je donne une intervention. Je fais une intervention. Si je me la pétais, j'irais une conférence, mais bon, n'allons pas si loin.
Vous pouvez
sur justement les problèmes écologiques qui s'intitule « Notre monde est beau, mais est-il durable ?» ou dans laquelle je montre qu'effectivement tout le progrès technique, la productivité, etc. ont permis à nos nations de se développer, de nous enrichir et à bon escient, hein, parce qu'on vit plus longtemps, on est en meilleure santé, etc. Mais qu'il y a eu un point de bascule et qu'aujourd'hui, bah, c'est peut-être un petit peu trop. et qu'il faut peut-être, je montre donc les conséquences évidemment écologiques de la crise environnementale, et j'essaye d'apporter quelques solutions. Alors cette conférence est gratuite. Il suffit de s'inscrire sur le site de Hello Asso, parce qu'en fin de compte, je suis invitée par l'association Zéro Déchet, à qui il faut remettre toute l'initiative de cette mesure. Voilà.
D'accord, merci Soizic, à noter dans nos agendas. Merci amis auditeurs d'avoir été avec moi tout au long de cette émission. Voilà, on est arrivé à la fin, mais à 19h, vous retrouverez votre émission hebdomadaire Novorama. L'émission sélectionne des artistes émergents pour vous les faire découvrir par un seul style musical, puisque vous pourrez y entendre de l'indie rock ou même de la pop. Ensuite, à 20h, c'est The Voice of Cassandre, toujours musical et diversifié, l'occasion de découvrir différents artistes via des mixtapes et des playlists. Et la soirée continue à 21h avec D'Eclectique Jazz, qui aujourd'hui rend hommage à Carla Bley, avec en invité Alex Dutil, Christophe Panzani et Pascal Verne. Vous savez donc tout de ce qui vous attend pour le reste de la journée sur nos ondes. Demain, l'agité du local. Dans l'agité du local, on parlera dépendance à l'alcool avec Olivier Coulange de l'association Alcool Assistance en Mayenne. Un sujet ou une question que l'on imagine trop souvent ne pas du tout nous concerner. Soyez au rendez-vous et d'ici là, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.